19h21.
France Inter. Le 18-20. Pierre Veille.
Voici le téléphone sonne. Dans cette émission, chaque soir, on attend vos questions sur des événements qui font l'actualité. Des invités sont là pour vous éclairer, vous permettre d'avoir les clés pour comprendre, que ce soit l'actualité politique, économique, diplomatique. Pour comprendre, il y a un élément fondamental, c'est le cerveau. Eh bien, ce soir, on va prendre le temps d'explorer cet organe fascinant. Grâce à un livre publié il y a quelques semaines, « Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions », livre signé Hervé Schneves aux éditions de l'Iconoclaste. Hervé Schneves est avec nous, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, bonne année à tous, merci
bonne
de votre invitation.
À vous. Vous êtes médecin, neurologue, neuroscientifique. Alors, le scientifique que vous êtes est émerveillé toujours par cet organe avec ses 200 milliards de cellules. Vous écrivez que beaucoup d'idées fausses existent sur le cerveau. Ce soir, vous qui nous écoutez, vous voulez en savoir plus sur le cerveau, le vrai, du faux, sur son fonctionnement. Eh bien, appelez-nous, Hervé Schneves vous répondra.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et déjà, beaucoup d'appels au standard du téléphone sonne. Janie, bonsoir Janie.
Oui, bonsoir et bonne année déjà d'avance.
Bonne année à vous et merci d'écouter France Inter. Vous êtes indispensable sans vous.
J'écoute que France Inter et vraiment beaucoup dans la nuit. J'écoute souvent les émissions en double puisque j'écoute des fois dans la journée et à nouveau la nuit puisque c'est renouvelé.
Formidable, voilà. Sans vous, on n'existe pas, on n'est plus rien. Allez-y Janie.
Merci. Alors moi, donc, voilà, je voulais poser donc une question à Hervé Schneves. Bonne année à vous. Hein.
Bonne année.
Et ce que je voulais vous demander, l'autre jour, en famille, pour Noël, on a fait un jeu. Et ce jeu est tombé, un jeu de société, et il y a eu une question justement sur le cerveau et les neurones. Et disons, bon, la question, il y avait trois possibilités, combien on perdait de neurones par jour. La réponse, c'était 10 000. Est-ce que c'est bien ça, d'après vous? Oui. 10 000 par jour.
Écoutez, c'est une extrapolation qui vient d'un certain nombre d'études essentiellement chez l'animal, mais comme l'a dit Pierre Veille il y a quelques instants, nous avons 200 milliards de cellules dans notre cerveau, et donc 10 000 par jour, c'est assez modeste, et ce qui compte surtout en plus, ce sont les connexions qu'elles font les unes avec les autres, plus que le nombre absolu de cellules.
D'accord, mais ce qui m'a un peu perturbé lors de la réponse dans le jeu, c'est qu'en fait, les 10 000, il était question de 10 000, qu'on perdait chaque jour, mais qui se renouvelaient. Et donc ça, c'est formidable, ça veut dire qu'on n'en perdait pas et qu'on gardait les 200 milliards. Mais sauf qu'il était bien précisé qu'après 65 ans, j'ai plus, hein, les cellules ne se renouvelaient pas. Alors voilà, c'est ça ma question. Et que peut-on faire pour justement entretenir, disons, toujours les neurones pour pas, dégringoler, quoi, je dirais.
Hervé Schneves vous répond.
Écoutez, c'est une excellente question. Alors, il faut toujours se méfier des fausses connaissances. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre aussi. L'émerveillement d'un côté, et puis toutes les erreurs ou toutes les fake news qui circulent sur le cerveau. Alors, chez l'animal, chez la souris, chez le rat, effectivement, les neurones se renouvellent. Mais chez l'homme, toutes les données actuelles convergent sur le fait que malheureusement non, on est avec un stock de neurones. Vous savez, les neurones, c'est pas les 200 milliards de cellules, c'est 85, 86 milliards. Les autres cellules, ce sont des cellules gliales ou des dizaines de kilomètres de vaisseaux sanguins. Donc, il y a une grande complexité des cellules. Quand on est, on a beaucoup trop de neurones. Et il y a des régions, par exemple, comme la moelle épinière, où on va perdre la moitié des neurones au cours des premiers mois de la vie. Donc, le nombre n'est pas la question. C'est plutôt le type de contact. Chaque cellule fait 50 000 ou plus contacts avec d'autres cellules. Et ce sont les circuits qui se forment qui sont importants. Donc, chez l'homme, on ne renouvelle pas nos cellules, que ce soit à 20 ans, ou à 65 ans, mais tout au long de la vie, on remodèle nos circuits, et à partir de là, apprendre, exercer des activités cognitives, c'est quelque chose que l'on peut et que l'on doit faire tout au long de la vie.
Des courriels, hein, Jean-Louis, justement sur ce sujet, il nous écrit « Les effets du vieillissement sur le cerveau, est-ce tout simplement que l'on perd des cellules ?»
Alors, c'est possible, c'est même probable que l'on perde des cellules, mais c'est pas pour ça que l'on perd des capacités, parce que les cellules, elles sont surtout importantes dans les circuits qu'elles forment avec d'autres cellules. Et donc, on est capable de remodeler et de refaire des nouveaux circuits. Et la preuve, c'est que tous nos auditeurs, quel que soit leur âge, y compris les centenaires, savent ou se rappellent ce qu'ils ont mangé la veille. Donc, il a bien fallu former des nouveaux souvenirs ou se rappellent qui était l'ailier droit dans leur équipe préférée, qui a marqué le but il y a 25 ans.
Benoît est au Bouscat. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne et Hervé Genevès vous écoute.
Oui, je voulais savoir si on avait identifié le support biologique de la conscience de soi chez l'homme. Et on a identifié des consciences de soi par un test du miroir chez les animaux. Est-ce que ce sont des supports que l'on partage avec eux ou non ?
Hervé Genevès ?
Alors d'abord, il faut commencer par dire que quelles que soient les avancées que nous avons faites, qui sont énormes dans le domaine des neurosciences, on est encore très ignorant. Il y a différents types de conscience et de conscience de soi. La conscience dont on parle en général chez l'homme, c'est la capacité de dire « je ». Et ça, aucun test de miroir chez l'animal n'est capable de le mettre en évidence. On a d'ailleurs, dans des expériences récentes, montré que presque tous les animaux sont capables du test du miroir. Même des poissons zèbres sont capables du test du miroir. Donc, se reconnaître n'est pas suffisant à définir la conscience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux pour essayer d'approcher ce que c'est que la conscience. On sait bien ce que c'est que l'inconscience, quand on dort par exemple, ou quand les personnes sont dans le coma. La conscience, ça semble être la mise en relation de façon synchrone de différentes régions du cerveau bien particulières. Et ça, c'est une caractéristique tout à fait humaine.
Je rappelle, notre invité ce soir, c'est Hervé Genevès, qui est médecin, neurologue, neuroscientifique et qui publie « Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions ». C'est paru aux éditions de l'Iconoclaste. Alors, Hervé Genevès, je vais résumer les courriels qui tournent, ils sont assez nombreux, hein, autour de l'intelligence. Et j'ai retenu ce courriel que nous a envoyé Marie-Dominique. « Cette personne est intelligente, très intelligente. Quelle formidable mécanique intellectuelle. Lui, il n'est pas très malin, il met du temps à comprendre, il est un peu lent. Toutes ces phrases, on les entend très souvent, écrit Marie-Dominique. Est-ce que ça veut dire que chaque cerveau est différent ? Certains fonctionnent mieux que d'autres.
Alors que chaque cerveau soit différent, c'est une évidence. Que certains fonctionnent mieux que d'autres, c'est à chacun de juger, mais on serait tenté de le penser. Maintenant, c'est surtout que chacun d'entre nous, nous utilisons notre cerveau d'une façon bien particulière. Alors pour un scientifique, en tout cas un scientifique qui fait des neurosciences comme moi, l'intelligence, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des tentatives qui ont été faites depuis plus d'un siècle pour essayer de mesurer certaines capacités. Des tests logiques, par exemple, et ça va s'appeler le QI, le test d'intelligence, mais ça ne mesure que la capacité d'établir des suites logiques, d'établir des graphismes. Ça ne prend pas, par exemple, en considération la qualité artistique, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artistique, l'intuition, ou d'autres formes d'intelligence qui sont, par exemple, le savoir philosophique. Donc, aujourd'hui, quand vous posez la question à un scientifique, l'intelligence, il ne sait pas ce que c'est. Et il y a une mythologie qui est tout le temps là d'essayer de courir après l'intelligence. Par exemple, il y a une dizaine d'années, les Chinois s'étaient mis avec la génétique à vouloir trouver les gènes de l'intelligence. Et il y avait un grand programme avec des dizaines de millions d'euros qui avait été mis en place par le Centre de génomique de Pékin pour trouver les gènes de l'intelligence. Parce que malheureusement, on sait que certains gènes mutés provoquent des défauts de l'intelligence. Eh bien, ils ont arrêté il y a un an maintenant le programme parce qu'après avoir dépensé des dizaines de millions de dollars, ils se sont rendus compte qu'ils n'aboutiraient à rien. Il n'y a pas de gène de l'intelligence, tout simplement parce qu'on ne sait pas la définir de façon scientifique aujourd'hui. un peu d'ailleurs comme la question sur la conscience juste précédemment.
Et là encore, je vous lis des courriels. Lorsque nous arrivons sur cette terre à la naissance, nous avons tous le même cerveau et après, il se modifie au fil du temps. Et s'il se modifie, pour quelle raison et de quelle façon? C'est une question que nous propose Jean, que nous envoie Jean-Jacques.
Alors, on a à peu près le même cerveau à la naissance. Alors, bien sûr, il y a plein de petites variantes parce que on a tous un fond génétique différent et qu'au cours du développement, il y a des événements, y compris au niveau de nos chromosomes et de nos gènes, qui font que on a une très grande variation. Normalement, dans toutes nos cellules, on a le même génome puisque c'est celui de l'œuf et de la cellule qui s'est divisée. Eh bien, dans le cerveau, il y a des petites variations du génome, ce qu'on appelle les recombinaisons, qui font qu'il y a environ 13 000 sortes de différences entre différents neurones au cours du développement. Donc déjà, même deux jumeaux issus du même œuf, à la naissance, n'auront pas tout à fait le même cerveau, mais presque quand même le même cerveau. Et puis ensuite, selon la manière dont on l'utilise, il y a tout ce qu'on appelle l'épigénétique, la plasticité. Et ça, ça fait que plus on va utiliser telle ou telle capacité, faire du violon, courir, être un fou d'histoire ou un fou d'art, eh bien, on va développer de nouvelles aptitudes et on va développer certaines aires du cerveau plus que d'autres.
À Clermont-Ferrand, Martine nous écoute et souhaite participer à l'émission. Martine, c'est le moment, vous êtes sur l'antenne, bienvenue.
Merci beaucoup, bonsoir, merci pour vos émissions. Je voulais demander, est-ce qu'un épisode dépressif laisse des séquelles à vie au cerveau?
Hervé Schneves.
Alors, la question c'est, est-ce que c'est l'épisode dépressif ou est-ce que c'est les raisons qui ont conduit à l'épisode dépressif? Donc, on a un cerveau qui a une très grande plasticité, quel que soit l'âge de la vie, et même quand il y a des lésions, il y a la capacité d'avoir des compensations, justement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la capacité de rétablir, de refaire des connexions, de refaire des circuits. Donc, si vous avez été opéré de l'appendicite, probablement il vous reste une cicatrice. Mais c'est pas parce que il vous reste la cicatrice sur la peau que vous êtes encore souffrant de l'appendicite. Il y a eu une réparation et il y a eu une façon pour votre tube digestif de se réorganiser autrement. Eh bien, pour le cerveau, c'est à peu près la même chose. On affronte un certain nombre d'événements qui sont liés à un fonctionnement particulier de notre cerveau. Et grâce à ses capacités de plasticité et de reconstruire d'autres circuits, eh bien, on va fonctionner différemment, même s'il peut rester une cicatrice.
Francis a ici les Moulineaux. Bonsoir Francis, c'est le téléphone sonne. C'est maintenant à vous sur l'antenne, si tout va bien. Ah, il y a un problème de liaison, ça ne marche pas. On essaiera de joindre Francis un peu plus tard. Voici un courriel que je vous lis, Hervé Schneves. Dans quelle mesure l'utilisation de somnifères hypnotiques peut influer sur notre cerveau? Est-ce que ça augmente une dégénérescence prématurée des cellules?
Alors, il y a deux parties dans cette question. La première est la plus simple à répondre, c'est qu'il y a malheureusement effectivement des corrélations qui ont été faites, mais c'est des corrélations entre la prise de médicaments de type somnifère et la fréquence de survenue de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Le fait que ce soit des corrélations ne nous dit pas grand-chose sur un lien de cause à effet. C'est peut-être parce que les gens ont des problèmes de troubles de sommeil, peut-être que les troubles de sommeil sont les premiers symptômes d'une maladie neurodégénérative qui va arriver. Sur l'autre partie, c'est-à-dire l'influence des médicaments sur le fonctionnement du cerveau, oui, malheureusement, ces médicaments, pour la plupart, font s'endormir, mais modifie de façon importante les différentes étapes du sommeil, et le sommeil est souvent de mauvaise qualité. Donc, quand on ne peut pas faire autrement, oui, il faut les prendre, mais si on peut trouver d'autres moyens, arrêter les écrans, arrêter les excitations, trouver un moyen de se préparer à s'endormir, et ça, on se prépare à s'endormir plusieurs heures avant l'arrivée du sommeil, eh bien c'est mieux que les somnifères.
On a beaucoup de questions au standard et des courriels. Manifestement, vous êtes fasciné par cette mécanique exceptionnelle avec ses 200 milliards de cellules. Le cerveau, vous évoquiez le sommeil, Hervé Schneves, et une question, la fonction du sommeil. Est-ce que ça veut dire que le cerveau est au repos?
Alors, pas du tout. Il est très, très actif pendant le sommeil, puisque la consommation d'énergie du cerveau... Enfin, vous savez que notre cerveau, c'est 2% du poids du corps, et c'est 25%, voire plus, de l'énergie que nous consommons. Eh bien, pendant le sommeil, il y a à peine 10-15% de baisse du métabolisme du cerveau. Et le cerveau travaille, et travaille énormément pendant le sommeil. Il y a même des... période qu'on appelle le sommeil paradoxal, où il est tout aussi actif que pendant la période de veille. Alors, tous les animaux dorment, et si vous empêchez un animal quel qu'il soit, pas seulement l'homme, de dormir, vous le faites mourir. Donc le sommeil est vital. Et pour des raisons qui sont encore mal comprises, même si on a de plus en plus d'indications. Le sommeil est essentiel pour des facultés cognitives comme l'apprentissage. On ne peut pas apprendre en dormant parce que notre cerveau est déconnecté de l'environnement, donc tout ce qu'on vous dit pendant le sommeil, vous ne l'entendez pas. Par contre, tous les souvenirs se consolident pendant le sommeil. Et donc, pour bien apprendre, il faut bien dormir. Et puis, pendant le sommeil, la structure même du cerveau se modifie. Il y a des espaces qui se forment entre les cellules et au fond, il y a un flux liquide qui passe à travers le cerveau pendant le sommeil et qui va nettoyer le cerveau justement de ces déchets accumulés par le métabolisme durant la période de veille. Et donc, c'est aussi essentiel le sommeil pour nettoyer notre cerveau des déchets qu'il accumule pendant la veille.
Alors je crois que Francis a ici les moulineaux. Cette fois-ci, la ligne fonctionne parfaitement. C'était un portable. Quelquefois, on a des surprises. Francis, vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne. On écoute votre question.
Bonsoir. Je voulais vous demander si les cerveaux des hommes et des femmes étaient différents et en quoi ils étaient différents.
Alors, les cerveaux des hommes entre eux sont plus différents que les cerveaux des hommes et des femmes entre eux. Ça veut dire que toutes ces bêtises sur les différences entre le cerveau des hommes, le cerveau des femmes, le cerveau droit, le cerveau gauche, ce sont les mêmes bêtises que, soi-disant, le cerveau reptilien, le cerveau mammalien. Ce sont des vieilles lunes qui datent de théories ou du siècle dernier ou de théories qui n'ont jamais pu être étayées en quoi que ce soit. Donc, nous avons tous un cerveau qui fonctionne différemment. Il y a un cerveau d'un homme, puisque c'est vous qui me parlez et c'est moi qui vous parle, mais nos auditrices ont à peu près le même cerveau et s'en servent soit à peu près de la même façon que nous, soit différemment, mais sans que ça ait une relation genrée. Il n'y a pas sauf pour l'éducation et la culture, un cerveau masculin et un cerveau féminin.
Pierre à Toulouse, il nous a écrit sur le site de l'émission « Quand quelqu'un fait un AVC et perd la parole, c'est le côté gauche du cerveau qui est touché. Est-il possible de faire une rééducation de cette perte de parole en faisant travailler la partie droite du cerveau, en faisant écouter de la musique que le patient connaît par exemple? Est-ce que la partie droite du cerveau peut envoyer des signaux à la partie gauche ?»
Beaucoup de questions ou de sous-questions au sein de la même question. Alors, pour un droitier, la région qui traite la parole est effectivement dans l'hémisphère gauche. Et malheureusement, si elle est gravement lésée, les capacités de récupération sont modestes, si ce n'est inexistant. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer de stimuler les capacités de régénération, mais malheureusement, comme je l'ai dit, on est encore très ignorant et il se passera encore beaucoup de temps avant qu'on ait des vraies capacités. À côté de ça, comme l'auditeur le dit, il est tout à fait possible de mettre en œuvre d'autres facultés de notre cerveau pour améliorer la compréhension du langage et améliorer des moyens de s'exprimer. Et effectivement, la musique, par exemple, est traitée dans d'autres régions. Un des paradoxe souvent rapporté, c'est que pour un patient Alzheimer qui ne peut plus apprendre, si vous essayez de lui apprendre une chanson, vous n'arriverez jamais à lui apprendre les paroles. Mais en quelques jours, il peut acquérir le refrain de la chanson. Ce qui montre que toutes les mémoires ne sont pas altérées de la même façon, toutes les régions de notre cerveau ne sont pas altérées de la même façon, et donc il faut effectivement essayer de travailler avec ce qui reste pour trouver des stratégies substitutives.
Philippe à Cannes, merci de nous écouter. Philippe, bonne année et posez votre question.
Merci, bonne année à vous. Ma question est très simple. Quelle est la forme biologique de l'information ? Il y a des images, il y a des textes, il y a des bits dans les ordinateurs, il y a un tas d'éléments qui sont connus, mais dans le cerveau. Comment se passe le stockage, la conservation et la modification des informations ?
Il nous faudrait des heures pour essayer de vous répondre. Et encore une fois, nous sommes très ignorants. Alors, ce qu'on peut dire surtout, c'est que tout est modulaire, tout est étape par étape. Quand vous lisez un texte, vous reconnaissez d'abord des traits verticaux ou horizontaux, puis vous reconnaissez une forme de lettre, puis vous reconnaissez une forme de mot, puis vous reconnaissez une syntaxe, et ces différentes régions du cerveau qui traitent ces informations les unes après les autres. L'information la plus élémentaire, c'est constitué par le fait que deux neurones envoient des prolongements l'un vers l'autre et que, grâce à l'information, il va y avoir la transmission d'une information d'un neurone à l'autre et un renforcement ou au contraire une mise au silence de ce contact, qu'on appelle dans notre langage une synapse, lors du passage de cette information. Si l'information elle est répétée, cette synapse elle va être renforcée, ça va devenir un premier circuit, ça va devenir un souvenir. Ce sont des bribes élémentaires de l'information que nous commençons à connaître, mais il va de soi que si vous me demandez comment une image que le plus puissant des ordinateurs met plusieurs minutes à analyser, vous, en 500 millisecondes, vous reconnaissez que c'est un de vos amis ou un de vos enfants. Ça, aujourd'hui, nous ne le savons pas encore.
Ce courriel, à l'instant, sur le site de l'émission, c'est Mylène à Caen. Comment expliquer le phénomène du déjà-vu ?
Ça, c'est des boucles qui se passent dans la région dans laquelle nous faisons entrer nos apprentissages et nos souvenirs, une région qui s'appelle l'hippocampe, et normalement, ça rentre par là, c'est indexé, c'est un peu comme un livre qui rentre dans une bibliothèque et vous mettez un numéro, et puis ça part vers les rayonnages. Et s'il y a une sorte de réverbération, si la boucle revient immédiatement, eh bien, votre cerveau le perçoit comme un souvenir, alors que c'est quelque chose qui est en train ou vient de se produire. Donc c'est juste ce qui se passe en ce moment qui est perçu anormalement comme un souvenir.
Claude à Garges-lès-Gonesse, bonsoir Claude.
Oui, bonsoir.
Hervé Schlevès vous écoute.
D'accord, alors moi je fais la différence entre la pensée et le cerveau chimique. Alors ma question est-ce que c'est la pensée qui crée les neurones ou est-ce que c'est le cerveau chimique qui crée la pensée, ou alors est-ce que c'est les deux qui s'alimentent mutuellement ?
Voilà, vous avez très très bien répondu à la question, je vous en félicite. Cabanis, qui est un de nos grands ancêtres, disait « le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile ». Tout à fait exact dans la mesure où sans l'activité de notre cerveau, nous n'avons aucune pensée possible. Mais il va de soi également que la pensée sculpte, modèle, modifie l'activité de notre cerveau. Et puis ce qu'on oublie toujours un peu, c'est qu'un cerveau humain n'existe pas. Nous sommes humains parce que nous avons été en interaction avec d'autres humains. Nous sommes humains parce que nous interagissons sans arrêt et que notre pensée ne peut pas se développer sans la pensée des autres. Et donc, dans cette dimension d'interaction entre les humains, il va de soi que là, notre cerveau est plutôt le réceptacle d'une pensée qui peut être souvent collective.
Beaucoup de courriels, Hervé Schneves. Alors, allons-y. Celui-ci qui vient d'arriver, une alimentation spécifique permet-elle de bien entretenir le cerveau?
Écoutez, j'ai dit tout à l'heure que notre cerveau est un gros consommateur d'énergie, hein, un quart de notre énergie quotidienne. Il ne fonctionne qu'à une seule molécule qui est du glucose. Il ne sait pas utiliser ni les graisses ni les protéines. Donc le foie lui fournit le glucose dont il a besoin. Alors il y a des aliments qui sont plutôt toxiques pour notre cerveau. Un certain nombre de produits qu'il faut essayer d'éviter. En particulier des métaux lourds. Ça, c'est très très mauvais pour le système nerveux d'une façon générale. On connaît les intoxications au manganèse ou les intoxications au mercure ou les intoxications au plomb. Ça, c'est vraiment des produits qui sont très toxiques. D'une façon générale, on a aussi aujourd'hui dans notre environnement un grand nombre de molécules qui perturbent l'activité de certaines régions de notre cerveau. Par exemple, les perturbateurs endocriniens modifient l'activité d'une région qui s'appelle l'hypothalamus et peuvent être à l'origine d'un certain nombre de troubles du comportement, y compris du comportement alimentaire comme la tendance à l'obésité. Donc, il va de soi que un cerveau sain, c'est aussi une alimentation saine. Et on pourrait parler par ailleurs de l'interaction avec le microbiote intestinal qui aujourd'hui semble être à l'origine d'un certain nombre d'inflammations du cerveau.
Pierre à Évry, bonsoir Pierre. Merci bonsoir. D'écouter l'émission, d'écouter attentivement toutes les informations que nous délivre Hervé Schneves sur cette mécanique prodigieuse, le cerveau. C'est à vous maintenant.
C'est une merveille. Merci à tout le monde et bonsoir et bonne année à tout le monde. La question, c'était, j'ai entendu que les terminaisons du cerveau arrivent jusque à l'appareil digestif. C'est-à-dire que le cerveau comprend ce avec quoi on s'alimente. Et donc, y a un lien peut-être à faire, soit avec l'anorexie, soit avec la boulimie, soit avec cet instinct de se nourrir intuitivement, avec ce qui nous plaît, dans des quantités intéressantes et sans excès ou sans restriction.
Hervé Schneves va vous répondre, Pierre.
Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que nous avons un système nerveux dédié à notre tube digestif. Vous savez, c'est 8 mètres de long avec beaucoup de motricité. Et donc, là, vous avez à peu près 200 millions de cellules qui sont consacrées au tube digestif, ce qui a été appelé par certains le deuxième cerveau. Ensuite, on sait qu'il y a beaucoup d'interactions aujourd'hui entre les bactéries qui vivent dans notre tube digestif et dont le génome est 10 fois plus important, c'est en quantité que notre propre génome à nous, donc entre ces bactéries du tube digestif et notre système nerveux, et il pourrait, pour certaines maladies neurodégénératives, y avoir une origine digestive. On en parle par exemple pour la maladie de Parkinson. Et puis enfin, vous avez parlé de maladies comme l'anorexie et la boulimie. Là, c'est totalement différent. Ce sont des régions de notre cerveau qui sont impliquées, mais c'est un trouble plus intégré du rapport de la personne avec son propre corps ou du rapport de la personne avec son alimentation. Et donc, on arrive là aux confins de la maladie mentale et des troubles qui doivent être aujourd'hui abordés comme les troubles de l'image du corps qu'a la personne d'elle-même.
Martin, aux Herbiers, patiente depuis un bon moment. Bonsoir Martin.
Bonsoir. Déjà, merci de prendre mon appel. Merci aussi pour vos émissions. Et puis, je voudrais dire mon soutien total aux grévistes de Radio France qui se battent pour le maintien d'une radio publique de qualité. Ce que je voulais demander à votre invité, en fait, c'est qu'on dit souvent, sans avoir de chiffres précis, qu'on utilise 10%, on va dire, de notre cerveau et qu'il y aurait 90%, on va dire, de dormants, de facultés qu'on n'utiliserait pas. Alors, sans imaginer des choses un peu fantastiques, est-ce qu'il y a vraiment 90% de notre cerveau qu'on n'utilise pas?
Hervé Schneves.
Malheureusement, c'est totalement faux. Ça sert à faire des blockbusters cinématographiques, mais ça n'est pas vrai. Votre cerveau, il fonctionne en permanence. Il fonctionne à 100%. Et quand vous changez d'activité ou quand vous vous focalisez sur une certaine tâche, la variation de consommation d'énergie qu'on mesure dans la région du cerveau impliquée, c'est de l'ordre de 1 à 2%. Notre cerveau, il est sur une ligne de base qu'on va dire à 100. Et quand vous vous consacrez à une tâche, il va monter à 101 ou 102 ou il va descendre à 98 ou 99. Donc, c'est tout le cerveau. Et même quand vous ne faites rien, quand vous dites « je ne pense à rien », eh bien, votre cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle le mode par défaut. Et ce mode par défaut, aujourd'hui, on se rend compte qu'il est essentiel à la préparation de scénarios pour le futur et qu'il est même tout à fait représentatif de notre personnalité. En enregistrant le mode par défaut, on peut avoir une empreinte cérébrale comme on a une empreinte digitale.
Et là, courriel encore. Annabelle, elle nous a écrit « comment le cerveau stocke la mémoire ? Le cerveau sait-il effacer ?»
Alors, c'est une très bonne question parce que la mémoire, c'est autant de l'effacement que de l'acquisition. Il y a des célèbres mnémonistes, des gens avec des super mémoires qui ont été examinés au cours de l'histoire. Et on se rend compte que ces gens qui accumulent tout sont des gens très malheureux et socialement désinsérés parce que ce qui est important dans la mémoire, c'est de faire le tri. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas? Et donc, être capable de hiérarchiser, de prioritiser et surtout d'effacer tout ce qui ne sert à rien est quelque chose d'essentiel à une bonne mémoire.
Lise nous a écrit « Je suis en terminale scientifique, je rêve d'étudier notre cerveau. Quelles études faut-il faire? Le passage par les études de médecine est-il obligatoire ?» La réponse d'Hervé Schneves, je rappelle, qui est médecin, neurologue, neuroscientifique.
Écoutez, ça a été mon histoire personnelle et j'en ai été très heureux de commencer par me former en neurologie et de faire de la science en plus. Les études classiques, c'est de faire la faculté des sciences, de faire des études de biologie, de passer par des voies royales dans certains cas comme l'école normale supérieure et surtout le plus tôt possible d'être en contact avec la recherche, avec les laboratoires de recherche. Et si c'est votre passion, à partir du moment où vous allez faire un bac scientifique et que vous allez vous engager dans des études scientifiques à l'université, je n'ai pas de doute que si c'est vraiment ça que vous voulez faire, vous y arriverez et je vous y encourage car notre cerveau, c'est probablement la plus belle frontière à conquérir.
Une frontière qui passionne nos auditeurs. Ce soir, on a eu vraiment beaucoup d'appels, beaucoup de courriels. Marie-Claude à Périgueux nous écoute. Marie-Claude, vous êtes la bienvenue sur l'antenne d'Inter. Et Hervé Schneves vous écoute.
Oui, bonsoir France Inter, bonsoir docteur. Simplement une question toute simple. Je me posais donc la question suivante. Pourquoi les personnes âgées se souviennent, ont des souvenirs d'autrefois, alors qu'elles ne se souviennent pas d'hier ou d'avant-hier et qu'elles ont... et qu'elles ne sont pas malades de maladies d'Alzheimer ou autres, qui sont saines d'esprit, qui se souviennent du passé et pas d'hier.
Votre réponse.
Écoutez, premièrement, beaucoup d'humilité. Je vous ai dit déjà plusieurs fois que nous étions très ignorants, donc on a des bribes de réponses, mais c'est vraiment des bribes. La première chose, c'est que pour se souvenir de quelque chose, il faut y faire attention. Et il y a beaucoup de choses auxquelles nous, les actifs, entre guillemets, nous faisons attention parce que ça nous concerne et qu'on trouve ça important. Et puis, pour la personne que vous avez en face de vous, ça peut n'avoir aucune importance. Nous, on trouve important de savoir ce qu'on a dans l'assiette ou ce qu'on a mangé hier. Mais une personne qui n'a pas le goût à ce qu'elle mange ou qui trouve pas très bon ce qu'elle a dans une EHPAD, va pas s'intéresser à ce qu'elle a dans son assiette. Il y a des choses qui nous intéressent, nous, dans l'actualité et qui n'intéressent pas du tout les personnes âgées. Donc, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est un problème d'attention? Est-ce que c'est un problème de dépression? C'est important aussi. Et puis ensuite, ça peut être un problème d'altération de fonction de mise en mémoire. Et ça, ça s'explore. Il y a à travers la France 42 centres d'exploration de la mémoire. On les appelle les CM2R. Et des consultations sont toujours possibles.
Hervé Schneves, alors un courriel qui nous vient de Serge et il vous pose la question « Que pensez-vous de l'intelligence artificielle dont on parle tant et qui va se développer ? L'intelligence artificielle comparée à un cerveau, c'est tout petit ?»
Ni petit ni grand, c'est autre chose. C'est comme si vous voulez comparer le battement des ailes d'un goéland avec les ailes d'un 700... d'un Airbus A320. C'est simplement que les deux volent, mais pas de la même façon et pas pour les mêmes raisons. Donc l'intelligence artificielle, j'en pense évidemment beaucoup de bien, puisqu'au laboratoire, non seulement on l'utilise, mais on en développe, un certain nombre de chercheurs du laboratoire développent des logiciels d'intelligence artificielle. Mais ce n'est ni fait pour remplacer, ni fait pour être en compétition avec l'intelligence naturelle. Et d'ailleurs, on a essayé dans notre université de créer un institut qui allie intelligence artificielle et intelligence naturelle pour les étudier. Donc il faut que les deux s'allient pour le bénéfice de l'individu, donc de l'intelligence naturelle, et qu'on ne croit pas que l'intelligence artificielle, qui, je vous le rappelle, est créée par des humains, donc par une intelligence,
des cerveaux, et ben voilà.
Par une intelligence naturelle, dans un but bien précis, qu'on ne la mette pas en compétition avec ce pourquoi elle doit être faite pour nous servir.
Ce sera sans doute le dernier appel pour ce soir. Henri, bonsoir Henri.
Oui, bonsoir. Écoutez, j'éteins ma radio à l'instant. Je suis très heureux de vous entendre, ça y est.
Ben
oui,
aussi.
Écoutez, je voulais vous poser une question à propos du cerveau qui me semble, moi, mais qui fait écho presque tous les jours dans mon environnement à la fois personnel et professionnel. Je suis kiné avec un parcours atypique, on va résumer. Darwin, ce vieux Darwin, la fonction crée l'organe. La fonction qui crée l'organe.
C'est ça, c'est plutôt la marque.
Pardon ?
C'est plutôt la marque, la fonction crée l'organe.
Ah, oui.
Je ne sais pas ce que vous appelez la marque.
Jean-Baptiste Lamarck, qui a dit la fonction crée l'organe. Et dans l'introduction à l'origine des espèces de Charles Darwin, il salue le travail de Lamarck en disant le premier, il a dit qu'il y avait des règles dans l'évolution, mais les règles qu'il a données sont des règles inexactes et Darwin va donner les règles de la sélection naturelle.
Mmh. Alors, d'accord. Henri, que vouliez-vous poser comme question à partir de cette formule célèbre, la fonction crée l'organe ?
Oui, ce que je voulais simplement signifier, c'est que il me semble vraiment que tous les processus d'apprentissage, c'est-à-dire le fait de fonctionner, le fait de pratiquer quelque chose, quoi que ce soit, le fait de croire en quelque chose, le fait de mémoriser plus ou moins consciemment une pratique, fait que l'humain va avoir tendance à développer organiquement, va modifier, va adapter ses organes en permanence. Le processus d'apprentissage, pour moi, ça parle de ça, quelque chose que je ne sais pas faire, à force de le faire et de le répéter, va faire que, grâce à mon cerveau, qui va intégrer un certain nombre d'informations et de compétences, mon corps va se modifier, mon corps et mon cerveau aussi, dans ses capacités.
Très bien. Henri, Hervé Schneves vous répond, il reste quelques secondes.
C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est ce qui nous permet nos adaptations. Et la différence avec les théories de l'évolution, c'est que tout cela n'est pas transmissible, sauf transmissible par ce que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire le dialogue entre des humains, la culture, l'apprentissage. Et ce qui nous fait humains, encore une fois, c'est l'interaction de nos cerveaux. Et c'est ce qui est le plus beau.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, d'avoir répondu ainsi aux questions des auditeurs. Je rappelle ce livre, Hervé Schneves, Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions. C'est paru aux éditions de l'Iconoclaste et vous saurez tout sur le cerveau en parcourant ce livre magnifiquement illustré. Il est 20h01 poignée de secondes.